C'est l'heure de la seconde partie des Midi de Culture, mais avant notre rencontre, nous rendons hommage au cinéaste Laurent Canté, Palme d'Or, en 2008 pour son film Entre les Murs, disparu hier.
Moi, je crains qu'un film ne change pas le monde, mais en tous les cas, si un film peut devenir ne serait-ce qu'un support de discussion, de réflexion sur un sujet donné, ça me semble être une des missions que le cinéma peut avoir. Je sais que je suis, par exemple, très content à chaque fois que je présente mes films, et je les suis beaucoup dans les salles, je fais énormément de débats avec le public. Je suis très très content quand, d'un seul coup, après avoir évoqué le film pendant 10 minutes, la discussion m'échappe, que le spectateur se l'approprie et va reconsidérer sa propre vie à l'aune de ce que moi j'ai essayé de mettre en forme, quoi. Et ça, c'est très très agréable.
La voix du cinéaste Laurent Canté, mort hier à l'âge de 63 ans, c'était en 2014 dans l'émission Hors Champ sur France Culture. Bonjour Caroline Bergeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi pour cet hommage. Vous êtes productrice, directrice de la société Haut et Court. Vous avez produit plusieurs des films de Laurent Canté, notamment Ressources humaines, Entre les murs. Est-ce que, en écoutant cet archive, vous retrouvez Laurent Canté dans ses mots?
Oui, je le retrouve entièrement et surtout dans le souci qu'il accordait à son public et à la manière dont son cinéma était perçu. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il dit, même si c'est entre les lignes, c'est que son cinéma a toujours été en avance sur son temps et que, comme tous les grands artistes, il a été parfois incompris à cause de ça.
Vous pensez à quel moment, par exemple, alors précurseur sur son temps, notamment sur les thèmes qu'il a abordés, on peut en citer quelques-uns, le monde du travail, les conditions de travail, le monde de l'entreprise, les violences aussi, l'emprise des hommes sur les femmes dans plusieurs films.
Oui, tout à fait, mais y compris des choses qui sont plus ténues, par exemple, sur un de ses premiers films, Les Sanguinaires, parler d'une sorte de confinement volontaire d'un groupe de copains pour échapper aux célébrations de l'an 2000, qui ressemblait étonnamment au confinement que nous avons vécu et l'envie que beaucoup de gens ont expérimenté d'un retrait du monde. Ressources humaines, qui est un de ses films les plus connus, c'était les ravages du libéralisme et surtout la honte chez un transfuge de classe. C'était quand même des mots qu'on n'utilisait pas à l'époque. Vers le sud, une réflexion qui était très délicate sur les rapports nord-sud. Et un des plus beaux portraits de femmes d'âge mûr qu'on ait été donné de voir au cinéma. Entre les murs, dont tout le monde parle et se souvient, c'était 10 ou 15 ans avant, pointer toute la fragmentation de notre société à travers l'école. Et Foxfire, qui est sans doute un immense film incompris, et où il avait 10 ans d'avance sur MeToo, puisque ça racontait l'histoire d'une bande de filles qui s'affranchissait de la phallocratie ambiante.
L'une de ses phrases préférées, c'était une phrase de Jean Renoir, « Tout le monde a ses raisons ». Est-ce que c'est une phrase qui lui ressemble? Est-ce que c'est une phrase qui... Voilà, un état d'esprit aussi qu'il utilisait dans son travail, dans ses collaborations avec vous, avec d'autres?
C'était une phrase absolument fondatrice de son cinéma et qui, à mon avis, a été à un moment donné à l'origine de cette sorte de désamour que nous avons pu et qu'il a pu aussi ressentir sans vraiment le comprendre vis-à-vis de son cinéma, qui pourtant n'avait jamais perdu quoi que ce soit de sa force. Et cette phrase, ça signifiait quoi ? C'est que son cinéma ne jugeait pas, n'était pas péremptoire, il ne se situait pas du côté du bien, pas du côté du mal, il était dans les interstices, dans toutes ces zones de gris que la pensée a désertées. Et du coup, c'est sûr que les gens se disaient « mais où est-il ?» Alors qu'en réalité, sa pensée était au bon endroit, qui était celle d'une très très grande liberté et d'une très grande attention à l'ambiguïté et à la complexité du monde.
Attends, tu m'emmènes où, là?
Voilà, hier, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'ai lu une lettre que j'aurais pas dû lire. Ils vont virer 12 personnes.
Putain.
Non, t'inquiète pas, toi tu restes. Toi, t'es trop jeune, t'es pas assez payé pour pas être rentable. Par contre, mon père est viré.
Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que vous êtes incapable de réfléchir à la même chose plus de 20 secondes. On dirait des enfants de 3 ans. Je pense que des gens qui auraient 13, 14 ou 15 ans, comme vous êtes censés avoir, eh bien, aux questions que je pose, ils auraient répondu en une minute et on n'en parlerait plus.
Eh, mais vous charriez trop, mais un truc de ouf.
Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie trop.
Mais tout le monde pense que vous charriez trop.
Je pense avec
Attends. Kunda, tout le monde le pense ou toi, tu le penses?
Non, tout le monde.
Parle en ton nom un peu.
Moi aussi, je pense que vous arrêtez pas de charrier.
Aquí está la geriatría.
Sobre todo, papillo.
Coño.
Bonjour Antoine Guillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de Laurent Cantet. Je rappelle que vous êtes producteur ici sur France Culture de l'émission de cinéma Plan Large. On vient d'entendre quelques extraits de films de Laurent Cantet, Ressources humaines, Entre les murs, Retour à Ithaque. Pourquoi le cinéma de Laurent Cantet était-il présenté comme un cinéma humaniste? Est-ce parce que, comme l'a dit Caroline Bingeau, il s'agit toujours de démontrer, de montrer des situations sociales, d'inégalités sociales, sans jamais prendre parti?
Humaniste, déjà, Laurent Cantet l'était, lui, dans sa vie personnelle. C'était quelqu'un qui était très engagé, notamment aux côtés des sans-papiers, du réseau Éducation sans frontières, du collectif 50-50. Et pour autant, il faisait un cinéma humaniste, mais complexe. Et c'est justement cette beauté-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu, quand on a découvert Ressources humaines, notamment, croire
en 2000,
qu'on avait notre Ken Loach français ou les frères Dardenne, puisqu'on a un comédien réalisateur belge avec nous.
On a Bouli Lanors avec nous.
Sur ce plateau, mais précisément, lui, ce qui l'intéressait, c'était la complexité. La complexité de l'humain. En témoigne son dernier film, Arthur Rimbaud, qui aussi était une histoire de transfuge de classe, mais qui tout d'un coup était rattrapé par une affaire de propos impossible tenue sur des réseaux sociaux. Et c'est cette complexité-là qu'il travaillait tout le temps. Et c'est très passionnant de voir un film effectivement comme Vers le Sud, par exemple, qui parle de ces rapports nord-sud qui se passent par des tensions sexuelles, mais sans jamais avoir un discours militant. En fait, ce qu'on l'entendait dire tout à l'heure, la joie qu'il avait quand il entendait des débats et que tout d'un coup, les spectateurs participaient au film, mais participaient aussi à sa compréhension de ce qu'il avait fait, c'était la même chose qu'il faisait avec ses comédiens, très souvent non professionnels, en témoignent les comédiens d'Entre les murs, mais aussi de Foxfire, qui est le grand film effectivement méconnu, qu'on redécouvrira un jour.
Incompris, a dit Caroline Bordeaux.
Oui, puis pourquoi il a été incompris? Parce qu'il aurait pu capitaliser après Entre les murs, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire tous ces films d'école qu'on a vus après lui. Il a lancé un genre réellement en France, on attendait Entre les murs 2, et puis il vous fait Foxfire sur un gang de filles dans les années 50 aux États-Unis, qui est un film extraordinaire. Mais lui, sa façon de travailler avec ses comédiens, de les amener à co-construire les personnages, à chercher l'accident aussi, ce qu'il n'avait pas prévu dans le tournage, parce que ça lui ramenait encore un peu de complexité, était quelque chose qui était absolument fascinant à voir.
Vous avez parlé de cette voie que Laurent Cantet a ouverte sur ses films d'école, on pourrait dire. Comment il a aussi marqué le cinéma, malgré effectivement quelques films, et ça arrive dans la carrière d'un réalisateur, qui n'ont pas été compris, selon vous, Antoine Guillot?
Alors, ce qui fait sans doute qu'on a du mal à situer Laurent Cantet, et peut-être qu'il faudra du temps pour le replacer à sa place, et Dieu sait qu'il a beaucoup parlé de la question de trouver sa place dans son cinéma, c'est qu'il n'a pas un effet de signature. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand styliste du cinéma qui apposerait ses principes de mise en scène aux histoires qu'il veut raconter. C'est quelqu'un qui remet en chantier en permanence son cinéma et qui va inventer des dispositifs. Encore une fois, Entre les murs, pour filmer une salle de classe, il va prendre 3 caméras, il va le filmer un peu comme un document. Et sur les 150 heures de Rush, il va sortir un film notamment avec Robin Campillo qui était son monteur. Il faut parler de cette bande qu'il y avait autour de lui, hein, Robin Campillo, Dominique Moll, Gilles Marchand, qui parfois venaient lui donner un coup de main sur ses tournages, comme lui allait leur donner des coups de main. C'est une idée
très de groupe.
D'ailleurs, le groupe, ça l'intéressait beaucoup de filmer ça depuis le début. Et donc, il inventait à chaque fois sa mise en scène en fonction de ce qu'il voulait raconter. Ce qu'il peut le donner comme quelqu'un d'un peu indéfinissable, mais c'est peut-être sa façon de filmer la parole, sans doute, qui fait l'unité de tous ses films. Il aime beaucoup quand ça débat, quand ça discute dans ses films. Même un film, pareil, un peu méconnu, Retour à Ithaque, qui filme le passé au présent de la Révolution cubaine, simplement avec des gens qui discutent sur une terrasse à La Havane. C'est un grand cinéma où ça parle, ça débat, ça discute, ça réfléchit.
Caroline Bingeau, un dernier mot. Quel souvenir vous garderez de Laurent Cantet?
En fait, c'est un souvenir qui a été incarné par un jeune garçon qui nous a écrit hier, qui s'appelle Gabriel, qui a 23 ans, qui est étudiant en cinéma, et qui nous a dit toute sa reconnaissance à Laurent pour Ressources humaines, qui avait tellement compté pour lui, qui venait de la classe ouvrière. Or, Ressources humaines est sorti en 1999, et donc ce jeune Gabriel n'était pas encore né. Et pour moi, ça dit vraiment tout du cinéma de Laurent, c'est-à-dire qu'il est vraiment éternel et que le monde qu'il y dépeint est plus que jamais le nôtre et le sera de plus en plus.
Merci beaucoup Caroline Benjou pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes productrice directrice de la société Eau et Cours et merci à vous Antoine Guillot. On vous écoute samedi, donc demain, dans l'émission Plan Large. Merci à vous deux pour cet hommage à Laurent Cantet.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est acteur et réalisateur, mais il est aussi artiste peintre et directeur d'un théâtre de marionnettes. On va lui en parler avec lui. Au cinéma, il est entré par la petite porte, des jobs par-ci, par-là, décorateur de plateau, accessoiriste, jusqu'au jeu d'acteur. Il rencontre les bonnes personnes et trouve sa place au fur et à mesure jusqu'à réaliser ses propres films. Ce midi, il vient nous parler du dernier film d'Antoine Rimbaud, dans lequel il joue une affaire de prince qui sort en salle mercredi prochain.
Bonjour Bully Lanners.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Ce rôle n'est pas un rôle comme les autres, Bully Lanners, puisque vous incarnez une personnalité politique dans Affaires de principe. Vous êtes José Bové.
Oui.
Qui était José Bové pour vous avant de faire ce film ?
Ah, pour moi, José Bové était une figure à suivre, puisque j'ai connu José Bové, enfin, par les médias, quand j'avais 12-13 ans, à l'époque de la lutte sur le Larzac, et ça m'avait profondément marqué. Donc c'était au début de mon militantisme et au début de mes premières convictions politiques. Et donc José a été une figure à suivre pour moi. Moi qui venais aussi d'un milieu paysan, je me rendais compte qu'il y avait un paysan qui pouvait parler, devenir un orateur, un tribun, et qui pouvait aussi devenir un chef de guerre.
Donc ça vous a pas surpris quand Antoine Rimbaud vient vous voir et vous propose de l'incarner au cinéma ?
Ah bah si, j'étais totalement surpris parce que en fait José a un peu disparu de la scène publique même pour moi je savais pas ce qu'il était devenu. Je ne l'avais jamais rencontré et puis surtout j'ai pas le même physique que José Bové. On a potentiellement une grosse moustache tous les deux mais ça s'arrête là. Donc j'étais à la fois surpris et à la fois terriblement excité parce que je me suis dit mais quelle bonne idée d'incarner José Bové. Donc j'ai dit oui même avant d'avoir lu le scénario.
Vous étiez, évidemment, on va en parler, mais en accord, vous aviez des points communs, vous allez nous raconter ça, votre rencontre avec lui. Mais d'abord, sur ce film, on est dans une affaire de principe, on n'est pas sur un biopic.
Non.
On est sur un film, sur un thriller politique qui nous emmène dans les arcanes du Parlement européen. C'est pas des arcanes où on a l'habitude d'aller. Donc, une fois que vous lisez le scénario, voilà, vous vous dites, bon, je vais y aller, je vais incarner ce José Bové-là. C'est pas celui du Larzac. Hein.
Non, en fait, ça me rassurait aussi de ne pas devoir faire un biopic, sinon j'aurais dû faire un travail, je sais pas, à la Daniel Day-Lewis, aller faire du fromage de brebis pendant 3 ans sur le...
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et je n'avais pas envie de ça. Donc là, c'est une partie de la vie de José quand il est député parlementaire qu'on connaît moins, qui est moins connu du grand public parce que les coups d'éclat étaient moins médiatisés. Mais l'affaire est très intéressante et puis je me rends compte que effectivement, moi non plus, je ne m'intéressais pas aux instances politique européenne et on ne les met jamais en scène, alors que les Américains le font toujours. On parle du FBI, on parle de la CIA, du Capitole, du Pentagone. On connaît même mieux les institutions américaines, finalement, que nos institutions européennes. Par exemple, l'OLAF, j'en avais jamais entendu parler.
Oui, vous pouvez nous dire ce que c'est, d'ailleurs.
L'OLAF, c'est un peu l'équivalent du FBI. Donc déjà, OLAF, ça sonne vachement moins bien que FBI, mais surtout, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc je me suis intéressé, parce que je trouvais ça très courageux et novateur de faire un thriller politique au sein d'institutions dont on ne parle jamais et qu'on ne voit jamais à l'écran. Et Antoine a réussi un coup de maître parce qu'il a vraiment réussi à rendre le Parlement européen et à Strasbourg et à Bruxelles assez sexy et très très visuel, quoi.
L'OLAF, c'est l'Office européen de lutte antifraude et c'est un office qui est donc au cœur de ce thriller politique.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac.
Monsieur Dalli, avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive ?
Non. Never. Le tabac en Europe est orbite out of me.
Mon père a été piégé. Sa directive était historique. Un vrai coup dur pour l'industrie du tabac.
Je vais avoir des infos. C'est peut-être bien commenté.
Qui êtes-vous, monsieur?
José Bové.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme.
Je peux dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier.
Barroso is beyond our reach.
You don't need to look for the lobby when the lobby is inside.
Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires?
Oui.
S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi.
Oui.
La bande-annonce, une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, ça sort le mercredi prochain, le 1er mai dans les salles avec vous, Bouly Lenners, en tant que José Bové, avec Thomas VDB qui incarne Fabrice, votre assistant parlementaire, et Céleste Brinquel qui est Clémence, votre stagiaire. Alors on est donc à Bruxelles en 2012, au moment où le commissaire européen à la santé est limogé du jour au lendemain. C'est l'affaire John Daly, le Daly Gate, l'opacité, le flou, le secret autour de cette démission, licenciement, on ne sait pas très bien. Pousse donc José Bové et son équipe, ces trois personnes en fait, hein, à mener cette enquête et ils vont découvrir effectivement un complot lié au lobby du tabac qui menace effectivement de déstabiliser les instances européennes. Est-ce que déjà j'ai bien résumé l'affaire?
Parfaitement, très bien.
C'est une adaptation donc d'un livre écrit par José Bové qui s'appelle Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe, paru en 2015 aux éditions La Découverte. Une fois que vous êtes... Voilà, vous avez décidé, je vais jouer José Bové, je lis ce scénario. La première chose qui vous vient à l'esprit, en fait, c'est ce qui vous plaît dans ce scénario, c'est quoi? C'est ce côté justement thriller?
C'est le côté thriller, et puis c'est de comprendre des institutions qui nous gouvernent et qu'on ne connaît pas. Donc je me plonge aussi un petit peu dans savoir ce que c'est le Conseil, enfin savoir qu'il y a trois pouvoirs, il y a le Conseil, il y a la Commission, puis il y a le Parlement, que la Commission et le Conseil, c'est très opaque, on ne sait pas ce qui s'y décide, il n'y aura jamais de déclassification puisque rien n'est noté, donc ça reste totalement obscur, et puis il y a le Parlement, et là ce sont les élus, et là c'est la vraie machine démocratique, c'est là qu'elle se passe. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec José, parce que Daly n'est pas un ami de José, c'est son ennemi.
Ils se sont combattus sur les OGM. Hein,
surtout, en fait. Ouais. C'est-à-dire que comme il était commissaire aussi à la santé et à l'agriculture, tous les combats que José menait contraient ce que Daly... Donc, c'est tout à coup son ennemi politique qui est limogé. Et José se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Daly, il est impossible qu'il ait accepté de l'argent des lobbies du tabac, puisque son cheval de bataille, c'était de faire voter cette loi anti-tabac, puisque son père est mort du cancer du tabac. Le cancer du fumeur, ce qu'on appelle. Et donc, José se doute qu'il y a quelque chose et mène l'enquête. Mais c'est une enquête qui est menée non pas par des enquêteurs ni par des policiers, mais par un parlementaire et ses deux assistants. Donc c'est une enquête de bureau. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans le film, parce qu'on a un vrai thriller, mais dans un code totalement différent.
Oui, il y a quand même un côté institutionnel, vous l'avez dit, c'était de rentrer dans les arcanes du pouvoir européen. On est en pleine élection européenne, vous avez l'impression que ce film, il s'impose à ce moment-là, parce qu'il y a une vraie méconnaissance, il y a même une dimension presque pédagogique dans ce film, selon vous?
Il y a une vraie dimension pédagogique, et il y a aussi, à mon avis, à mon sens, matière à redonner confiance en l'outil démocratique et de se dire, mais en fait, il faut aller voter, parce que le film est l'exemple même que l'outil démocratique mis en place fonctionne, puisque c'est quand même des députés, des parlementaires qui ont réussi à bloquer la machine et surtout à contrer les lobbies. Or, la puissance du lobby au sein de l'Union européenne, elle n'est pas secrète, c'est connu. Il y a plus ou moins 80 lobbyistes par parlementaire. Il y a plus de 700 parlementaires, donc ça fait une masse insensée de lobbyistes qui sont présents tous les jours dans l'hémicycle, quoi.
C'est presque un film militant, alors même. Pro-Europe, à fond, quoi.
Ah, il est pro-Europe et surtout pro-démocratique.
Sans José Bové, il n'y aurait peut-être pas eu de film, puisque c'est cette personnalité, le rôle de José Bové dans cette affaire qui a inspiré Antoine Rimbaud et qui l'a poussé à raconter cette histoire sur le grand écran. Et il dit quelque chose d'intéressant, Antoine Rimbaud, il dit que José Bové, il a dans le film une personnalité particulière. Il est déterminé, il veut aller au bout, mais il a, et je le cite, un œil qui frise, ce léger sourire en coin qui porte le film. Ça, c'est votre touche à vous ou c'est le José Bové que vous avez découvert?
Mais c'est ma touche à moi, mais c'est aussi José Bové, parce que José Bové s'est toujours amusé de ce qu'il faisait. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'être député parlementaire européen pendant 10 ans, c'est se lever tous les jours à 6h du matin, rentrer dans ce bâtiment qui est absolument atroce, qui est énergivore, enfin, on ne s'y sent pas bien. Lui, il avait un organisme, enfin, ils organisaient leur travail comme des militaires, quoi. Ils y allaient tous les jours et donc il était passionné par ce qu'il faisait. Et tous les coups d'éclat que José a fait, ces petits clins d'œil, parce que je peux pas spoiler le film non plus, mais ça a existé, donc José s'amuse de ça aussi. José, c'était le seul type qui passait le portique sans son badge.
Comment il faisait?
Il y arrivait. C'est ça qui est génial. Il passait. Et toujours là maintenant, on est retourné au Parlement européen à Bruxelles la semaine passée. Alors qu'il est plus du tout, il a réussi à rentrer sans badge, quoi.
C'est intégré en lui, en fait.
Ouais, c'est intégré. Il a ça dans son ADN. Donc c'est très drôle, en fait, d'être aux côtés. Parce que j'étais beaucoup aux côtés de José Bové. C'est très, très drôle d'être avec lui.
Alors justement, vous l'avez rencontré à quel moment, dans quelles circonstances, et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous le rencontrez pour la première fois?
Ben, José Bové, on le rencontre sur le Larzac, hein. Parce que c'est quand même, on peut pas rencontrer José Bové dans un bistrot à Paris.
Dans un McDo. Peut-être.
Bah non, dans un McDo, ça aurait plus de sens. Mais non, donc je l'ai rencontré sur le Larzac, chez lui, et arrivé sur le Larzac, c'est un voyage initiatique pratiquement, parce qu'on arrive sur ce haut plateau qui est quand même très particulier, avec un paysage fort, donc c'est quand même austère, et puis on passe à côté du camp militaire, qui était l'endroit de la contestation qui a duré 12 ans, hein, contre l'armée, parce qu'il habite vraiment au bord du terrain militaire, et puis on arrive chez lui, voilà, on est in situ, et débarque tout à coup José Bové, et à partir de là, bah, on a face à soi un homme simplement, et on a parlé de tout, sauf de cinéma.
Il y a eu une transformation physique est un bien grand mot.
Oui.
Bon, qu'est-ce qui, la moustache?
Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que José a une silhouette, quoi. Donc c'est facile, il est blond, il a une moustache et il a une pipe, donc c'est déjà plus facile d'incarner José Bové que François Hollande, par exemple, où c'est plus dur de le caractériser. Moi, c'était mon problème, c'était...
Il y a des lunettes, quand même, François.
Ouais, il y a des lunettes, mais des lunettes qu'on ne voit pas.
Oui, c'est vrai, c'est une caractéristique.
On les voit pas, sa cravate, on la voit pas, ouais. José, on le voit. Mm. Voilà, donc c'est facile de faire semblant d'être José Bové.
Comment vous vous êtes préparé justement, parce que c'est difficile d'incarner un personnage, une personnalité publique, vous l'avez dit, qui a une silhouette qu'on reconnaît immédiatement, sans être dans le mimétisme, sans être dans la parodie justement. On fait quoi? On regarde des images de lui, on s'inspire de la façon dont il parle?
Bon, d'abord, j'ai perdu un peu de poids, parce que tout le monde avait... moi, c'est ça, je voulais pas être ridicule, et je voulais pas non plus trahir José, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est plus facile d'incarner quelqu'un qu'on n'aime pas, parce qu'on se dit, on peut le trahir, on s'en fout, on l'aime pas. Mais José, je l'aime, donc je ne voulais pas le trahir. Donc je voulais absolument perdre de poids, je faisais une fixette là-dessus, mais tout le monde disait, mais non, José Bové, il est... Donc dans l'inconscient culturel et collectif, les gens ont l'impression que José Bové est quelqu'un de costaud. En fait, c'est sa moustache et c'est sa force d'orateur et de meneur.
C'est les coups d'éclat,
qui donne l'impression que les gens... Donc ça m'a rassuré. Après, j'ai regardé beaucoup de reportages qu'Antoine Raybaud m'a filé pour voir comment José était, parce qu'il n'est pas... quand on est en privé, il ne se comporte pas de la même façon que quand il est sur le terrain, qu'il soit en train de faucher du maïs transgénique et puis que la gendarmerie arrive. Donc je voulais le voir comment il était quand il était en pleine action avec ses camarades, etc. Je voulais voir comment il parlait. Donc je me suis un peu inspiré de ça, mais pas trop, parce qu'il ne fallait pas rentrer dans du mimétisme non plus. Il fallait surtout raconter une histoire.
Et justement, vous disiez, c'est plus facile, enfin c'est plus difficile d'incarner quelqu'un qu'on aime bien. Est-ce que vous pourriez incarner quelqu'un avec qui vous ne partagez aucune conviction
J'aimerais beaucoup.
C'est vrai, on vous a jamais posé, parce qu'on a l'impression que vos personnages, c'est vous un peu, ça vous ressemble. Alors oui. C'est peut-être une fausse idée qu'on se fait aussi.
C'est peut-être une fausse idée qu'on se fait, parce que le docteur Brun dans Hippocrate, par exemple, je ne lui ressemble pas du tout.
J'étais persuadée que vous étiez comme ça dans la vie.
Je suis beaucoup plus gentil que ça.
Mais il est vachement sympa.
Oui, il est sympa, mais enfin, il est dur avec son personnel quand même.
Bah, c'est normal, il doit sauver des vies.
Ah, c'est bien, vous prenez ma défense.
Bah, non, et puis surtout, il prend quand même des antennes sous son aile. Il est...
Ah, bah oui, moi je trouve, oui.
C'est un personnage attachant, en fait.
Ah, faut me rassurer. Bon, en fait, oui, j'aime bien interpréter les personnages un peu ambigus aussi avec eux. J'aimerais beaucoup interpréter quelqu'un que je déteste, parce que du coup ça me permettrait de mettre
la pire ordure, quoi.
Ouais, parce que du coup ça me permettrait de mettre ça en avant. Imaginons que je dois interpréter Barroso, par exemple, et que Barroso adore les animaux. Le fait qu'il adore les animaux, je l'exclurais complètement de mon personnage. Ça le rendrait humain, donc je préfère du coup aller rechercher ce qu'il y a de pire chez lui, donc c'est plus facile.
Et on n'a jamais pensé à vous pour un méchant, presque. Enfin, ou pour, en tout cas, une personnalité antagoniste.
J'ai joué deux fois des méchants, et c'était en fait très très drôle à faire. C'est bien plus drôle de jouer les méchants que de jouer les gentils.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture... Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Le petit Alain n'était pas un enfant comme les autres. Il ne s'intéressait ni au rap, ni à la bière, ni aux consoles vidéo. Un jour, il astiquait distraitement sa lampe à huile dans l'autobus. Ah, j'ai dit une bêtise, je ne vois pas de lampe à huile.
Bonjour à là, je suis ton bon génie. Attends, je vais m'asseoir là, je serai mieux mis.
Un bon génie? Je ne savais pas que ça existait vraiment.
Eh ouais, mon petit gars.
Mais pourtant, je n'ai pas de lampe merveilleuse.
Ouais, mais de lampe, oui, on trouve plus ça de nos jours. On a dû tous se recycler. Moi, je me suis recyclé dans les bites.
Dans les bites?
Il suffit que tu frottes ta bite et j'apparais. Puis après, c'est tout le tout team comme d'habitude. T'as droit à 3 vœux, tchik et tchak et tchik et tchak. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Je ne sais pas, moi. Si, je sais ce qui me ferait plaisir. Ce que je voudrais, c'est garder toujours une âme d'enfant. Et qu'autour de moi, ce soit un vrai conte de fées.
Oh ouais, mais c'est non, hein, moi je suis un génie de la bite. Moi, je peux juste exaucer des vœux en dessous de la ceinture. Oh. De toute façon, tu sais où tu dois te compter pour me rappeler, hein.
Oui.
Alain, bye bye.
Au revoir, bon génie.
Un extrait de l'émission Les Snuls. Les Snuls ?
Les Snuls.
Les Snuls. Ouais. Donc c'est sur Canal+ Belgique, imaginé par un groupe d'humoristes entre 89 et 93. Ça rappelle évidemment Les Nuls et vous en étiez, Bouly Lanner.
J'en étais.
Je sais pas si c'est un bon souvenir.
Non, j'ai pas honte, mais tout à coup vous m'avez replongé en arrière, ça m'a perturbé. Excusez-moi. Oui. C'était vraiment un moment de ma vie, c'était tellement vieux, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie.
Bah, c'était il y a 30 ans, hein.
Bah oui, il y a 30 ans, voilà, c'est ça. Mais c'était une autre vie.
Une autre vie, vous aviez, parce que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des personnages que vous aimiez, vous voudriez incarner. Et là, vous aviez à ce moment-là, une réputation d'être un garçon drôle, au moment où vous deveniez acteur. Et après, vous allez vous détacher un peu de cette étiquette-là. C'était volontaire, ça?
Ben, en fait, le garçon drôle, oui, j'avais pas le choix, en fait. J'étais un petit gros. Donc, les petits gros, en général, on en fait des drôles. Un petit gros qui est vraiment méchant, c'est très rare au cinéma. Un petit gros méchant?
J'essaie de réfléchir. On peut pas,
on n'ose pas. On va dire, ouais, grossophobie, blablabla. Non, on peut pas. Un petit gros, il doit être gentil. Donc, je faisais toujours les petits gentils. Et il y avait moins de gros à l'époque aussi. Oui, là, bah, c'est clair. Les gens sont de plus en plus gros. Donc, j'étais plus rare sur le marché. C'est pour ça que j'ai pu continuer à jouer.
Vous occupiez la place, cette place-là, quoi.
Ben, j'avais ce statut-là et finalement, on me reprenait chaque fois pour ça.
Vous êtes autodidacte, Bouly Lanner. Vous avez commencé justement, je l'ai dit, par des petits jobs, on peut le dire comme ça, sur des plateaux, notamment avant de rencontrer Benoît Poulvorde, les Grolandais, ensuite Benoît Delépine et Gustave Kervern. Vous franchissez comme ça les étapes, vous jouez et ensuite vous réalisez. Aujourd'hui, et à l'époque, vous dites, c'était possible parce que dans le cinéma belge de la fin des années 80, on avait cette possibilité-là, on avait cette chance-là, en fait.
C'était le Far West, il y avait la loi n'était pas encore arrivée comme à l'ouest du Pecos, il n'y avait pas de réglementation, vraiment, c'était le début pour beaucoup de gens, pour plein de producteurs aussi. Toto le héros, c'est arrivé près de chez vous, les Suls ont été des éléments déclencheurs de cette mouvance-là. La Belgique a été amputée de son histoire du cinéma aussi pendant des années. Il faut savoir qu'en Belgique, entre 1939 et 1967, il n'y a pas eu de cinéma. Le plan Marshall nous a interdit de produire des films en Belgique. Donc le cinéma belge a une renaissance en 67, donc elle est amputée de la moitié de son histoire à ce moment-là. Ce qui fait que les institutions, les guichets de financement n'existaient pas. Les écoles de cinéma sont nées en 67, il n'y en avait pas avant. Donc on n'a pas eu d'histoire de cinéma avant ça. Ce qui fait que le cinéma belge est né plus tard. Et donc, dans les années 80, il y avait ce côté un peu Far West, puisque c'était pas mis en place. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est devenu une industrie qui fonctionne très bien. Nous sommes en partenariat récurrent avec la France et on n'a plus vraiment de différence. Mais ce côté, moi, western me manque. Voilà. Parce qu'il y avait, tout était possible.
Enfin, justement, comment ça a marqué votre cinéma aujourd'hui en tant que réalisateur aussi? Comment est-ce que vous trouvez dans ces racines-là, dans cette façon d'être entré dans le métier d'acteur, de réalisateur, ça marque aujourd'hui votre façon de travailler quand vous réalisez un film, qu'est-ce qui porte votre attention? Il y a une façon de travailler peut-être plus à l'ancienne, les mains dans le cambouis?
En fait, c'était, y avait quelque chose de l'ordre de la contrainte positive, comme même quand on faisait Les Nuls, le budget était pratiquement inexistant, mais en fait, dans cette émission, j'étais aussi l'accessoiriste, le régisseur et le décorateur. Et puis, accessoirement, j'apparaissais comme comédien, mais ma fonction première, c'était d'être régisseur, décorateur et accessoiriste, avec très peu de budget. Donc, c'était l'éloge, l'école de la débrouille. Et cette débrouille imposait, et finalement, avait une répercussion sur la forme. Et donc, je me suis toujours servi de ça. Mes premiers films, c'était des films qui étaient des films où il n'y avait absolument pas d'argent, mais ce manque d'argent nous imposait, on devait trouver des solutions, et finalement ces solutions avaient un impact aussi sur la forme. Donc il y avait des compromis à faire, mais ces compromis nous faisaient avancer. Si on avait eu des financements conséquents dès le début, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Et ce côté-là m'a aidé tout le reste de ma vie, puisque j'ai chaque fois pu, du coup, rebondir sur des manques de financement ou du chiffrage qui arrive en fin de production et qui est moindre que le chiffrage. Mon dernier film, par exemple, qu'on a tourné en Écosse, on est passé de 42 jours à 30 jours de tournage, mais à 3 semaines du tournage. Donc, on m'ampute d'un quart du temps de tournage pour faire un film en Écosse. Donc, du coup, là, je repars dans ce truc de débrouille et pour arriver à clôturer le film et le faire.
Avec des succès quand même à la clé dans votre carrière, vous avez reçu 4 Magritte, c'est l'équivalent des Césars. En Belgique, pour des rôles que vous avez joués dans notamment De Rouillé d'Os de Jacques Audiard ou C'est ça l'amour de Claire Burger, et pour vos propres films, Les Géants et Les Premiers et Les Derniers. Avec le recul aujourd'hui sur votre carrière, votre travail, ce que vous avez pu faire, vous vous dites j'aurais jamais dû être là, mais j'ai réussi à trouver ma place.
J'aurais jamais dû être là. Et je suis content d'y avoir été. Non, je suis content d'y avoir été parce que je me rends compte que j'ai quand même fait des choses, que j'ai rencontré des gens, que j'ai vécu des aventures humaines et artistiques exceptionnelles. Et ça, voilà, ça a enrichi toute ma vie. Maintenant, ben, je vais certainement passer un peu à autre chose. En tout cas, je vais revoir ma manière de fabriquer les choses et je ne vais pas rentrer dans un systématisme.
Vous en parlez au passé ? Aujourd'hui, du cinéma, justement, il y a quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi directeur d'un théâtre de marionnettes, je vais en dire un mot, mais d'abord sur ce rapport à l'industrie cinématographique, on a l'impression que voilà, vous êtes plus en accord aujourd'hui avec ce qu'elle peut être, et vous n'avez plus envie d'en faire partie?
Non, j'ai envie d'en faire partie, mais le monde change et le monde du cinéma a changé aussi, mes convictions politiques aussi, écologiques aussi, donc je me sens moins en adéquation avec tout système, donc
c'est le côté Far West qui vous manque ?
Le côté Far West et puis cette débauche qui est de plus en plus excessive. Et puis le fait aussi de parler d'un produit artistique qui ne devient plus qu'un produit commercial. La mise en commerce d'un film sur le marché m'a toujours un peu blessé. Et je n'ai plus envie de revivre ça. Donc, en tout cas, si je refais un film, ce sera différemment. Peut-être que je le produirai moi-même, peut-être que je vais aller vers le documentaire, partir seul et avec une économie de moyens beaucoup plus drastique.
Oui, ça c'est encore possible. C'est-à-dire que malgré l'industrie, le marché, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'auteur, de l'indépendance qui est
voilà,
possible.
Et j'ai envie de retrouver cette indépendance-là. Donc je fais un pas de côté pour l'instant. Je me mets un peu au vert, je vais faire un petit tour et je me reconnecte avec la vie pour pouvoir mieux revenir au cinéma après.
Donc c'est changer de vie personnelle, vous l'avez dit, vivre dans un endroit plus au calme, proche de la nature, mais c'est aussi dans votre vie professionnelle, vous avez hérité par votre femme d'un théâtre, un théâtre de marionnettes, qui était dirigé par Jacques Ancion, c'était un des plus grands marionnettistes liégeois de Belgique même, ouais. On peut le dire, il est décédé en 2022, et vous avez donc repris ce théâtre de marionnettes, toute petite salle, des marionnettes, où là aussi vous faites tout, Bully Lenners.
En fait, on a repris les marionnettes. Le théâtre a été vendu et on a reconstruit un théâtre sur les mêmes mesures que le théâtre de mes beaux-parents. Parce que la question s'est posée de qu'allait-on faire de ce patrimoine. Donc, c'est pas de la marionnette à Gaines, c'est de la marionnette à Tringle. Donc, ce sont des marionnettes en bois. Certaines datent du 19e siècle, donc on avait un patrimoine exceptionnel qui allait partir dans des collections privées. Tous les acheteurs étaient là, prêts à venir acheter, et donc on s'est dit, on ne peut pas revendre ça, il faut qu'elles vivent, et pour qu'elles vivent, elles doivent jouer. Donc on a reconstruit un théâtre, et on maintient cette tradition, on l'adapte à ce qui se fait aujourd'hui, et on fait du théâtre de marionnettes pour adultes. Donc c'est pas du tout du théâtre pour enfants. Faut savoir qu'à Liège, il y avait 60-70 théâtres de marionnettes dans les années 20. Ça fait vraiment partie de l'ADN des Liégeois. Et qu'aujourd'hui, il existe toujours 9 troupes de théâtre de marionnettes et 6 théâtres fixes à Liège, quoi.
Qu'est-ce qui vous amuse dans cet art? Raconter des histoires, jouer des personnages très différents?
En fait, ça ne fonctionne que si mon épouse et moi on est là, c'est-à-dire que tous les théâtres de marionnettes étaient des petites sociétés familiales, parce qu'il y a une intimité derrière. Quand on est derrière le Castellet, on ne peut travailler qu'en intimité, qu'en famille. Mon épouse et moi, à nous deux, nous avons toutes les compétences, c'est-à-dire qu'elle est metteur en scène au théâtre, elle fait la mise en scène, elle est née dans la marionnette, elle a vécu toute son enfance, elle a travaillé avec ses parents parce qu'il n'avait pas le choix. Elle est aussi chef costumière, elle rhabille les marionnettes. Moi, j'écris les histoires, je fais les voix, je manipule avec elle. J'ai fait les beaux-arts, je restaure les marionnettes, j'ai fait des bénisteries. Donc, en fait, on a les compétences communes qui nous permettent pour le reprendre. On a l'endroit, on avait tout. Et il y a aussi là un truc que on a une liberté absolue, c'est-à-dire qu'on n'a aucun crédit, mais surtout, on n'a aucun subside, donc on ne doit rien à personne. Donc, je ne suis plus obligé de passer après l'écriture d'une pièce, puisqu'on ne fait fais que des créations. Je ne suis pas obligé de passer un oral devant une commission pour justifier le bien fondé de mon écriture. Mmh. J'écris, je joue. Et donc, du coup, on a une liberté totale, quoi.
Mais c'est pas un peu vertigineux d'avoir une telle liberté, justement?
Ben, c'est vertigineux, mais comme la joue, c'est 30 personnes. Donc, ça rend déjà le truc vachement moins vertigineux. Mmh. Donc, on joue 3 fois par semaine. On a fait une petite saison. On fait quand même 1000 spectateurs. On a vendu toutes les places en une journée.
Ah oui, quand même.
Oui, oui, ouais. Non. Il y a une demande hallucinante sur ce théâtre de marionnettes parce que les gens retrouvent aussi quelque chose qui est lié au passé. Et puis, on joue avec un matériau. Pratiquement, ce sont des marionnettes du 19e siècle, elles sont magnifiques, ce sont des pièces de collection, mais elles jouent vraiment. Donc il y a aussi ce lien avec le passé qui, moi, m'excite très fort, quoi.
On sent évidemment qu'il y a une forme d'engagement, Bully Lanners, dans ce que vous êtes en train de raconter sur abandonner cette industrie du cinéma qui est devenue très consumériste, travailler sur des petites choses. Vous parliez de la taille de la salle, c'est presque voilà, il y a quelque chose d'un artiste engagé, même. Je sais pas si vous aimez ce terme-là.
Ouais, ça veut pas. Mais en fait, moi, je parle beaucoup de décroissance. Et à un moment donné, on ne peut pas être que dans le verbe. C'est comme quand je parle de protection de la nature. À un moment donné, il faut jardiner. Je veux dire, c'est mon côté peut-être un peu maoïste, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans le verre. Donc, je fais mon potager, on a nos abeilles.
Vous avez quoi comme légumes?
Alors là, on a tout là. En fait, avant de venir ici, j'ai planté les patates parce qu'on fait les rotations. Évidemment, et c'était le dernier jour par rapport à la lune pour planter les patates.
Il fait pas trop froid, là?
Non. Pour les patates, c'est bon. Hein. Il peut geler, elles ne sont pas encore sorties. Non, non. Et puis là, j'ai mis les oignons de Mulhouse au mois de février, mes fèves de marais. On a semé les carottes. On avait encore un peu de la mâche, on l'a enlevé. Puis là, on va passer maintenant.
Vous vivez qu'avec ce que vous faites, en fait.
On n'arrive pas à faire l'année, mais on peut faire la moitié de l'année avec nos légumes.
Ah oui, quand même.
Oui, ouais, quand même. Mais ça demande un travail quotidien. C'est pas juste aller deux fois dans le jardin gratter un peu. Et puis, on a quand même un truc de surface potagère assez conséquent, donc ça demande quand même pas mal de travail, quoi. Donc, il y a ça. Et le théâtre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire parler de décroissance sans, et puis, alors, faire du cinéma qui impose des transhumances permanentes, aller dans des festivals, je prends jamais l'avion, mais on me demanderait de prendre l'avion tout le temps, d'aller me déplacer là, c'est pas possible. Donc ce théâtre aussi correspond à quelque chose d'idéologique, c'est-à-dire que ces 30 places, on vend la bière qui est brassée par nos voisins, l'eau, c'est de l'eau de récupération de pluie, il n'y a aucune émission de CO2, le coût de production d'un spectacle, c'est de l'ordre de 100 euros, les marionnettes, on les restaure avec, c'est des tout petits modules, des petites surfaces, donc très peu de tissu, donc on est vraiment dans une économie drastique, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en train jusqu'à nous, oui. Bully Lanners, pour nous présenter votre nouvelle vie, mais aussi ce rôle donc que vous incarnez au cinéma à partir de mercredi prochain, le 1er mai, dans le film d'Antoine Rimbaud. Ça s'appelle Une affaire de principe. Vous y incarnez José Beauvais, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais je les cite quand même, accompagné de Thomas VDB,
qui joue
Fabrice, votre assistant parlementaire, et Céline Brinquel, qui joue...
Céleste,
qui joue Clémence. Voilà, j'ai tout dit.
Pour finir, Bully Lanners, nous avons choisi deux chansons. Sont l'une d'un chanteur belge, l'autre d'un chanteur écossais. Vous êtes très attaché à l'Écosse.
Oui.
Laquelle des deux chansons souhaitez-vous écouter?
Un chanteur écossais.
'Twas in the pleasant month of June, when gentle ladies walk their lane, when woods and valleys are grow green, and the sun it shone so clearly. Down in yon grove I spied a swain, a shepherd sheep club in his hand. He was driving ewes out o'er the knowes, and he was a weelford laddie.
Ewan McCall, Bully Lanners, pour conclure cette émission.
Je crois que je n'ai jamais entendu Ewan McCall en dehors de l'Écosse. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci.
Merci à vous d'être venus dans les Midis de Culture, émission préparée par Seth Wendeuil, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigne, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. C'est Nicolas Berger qui réalise cette émission. Ce midi, c'est Florent Bujon qui est à la prise de son. Merci à tous et à toutes. À lundi, Géraldine.
À lundi, Nicolas.